Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le lundi 22 mars. Vous écoutez Radio Silence, Flash sur le monde par Élise Mbok. Alors, la dernière fois, sur la dernière émission, j'avais parlé du billet de Bernard Lugan sur l'Algérie et en faisant une comparaison avec le Cameroun sur le développement urbain, je semblais dire que l'Algérie était développée, plus développée de façon urbaine que le Cameroun. Et apparemment, c'est pas aussi vrai que cela. Vous savez, Jacques Chirac disait que la colonisation n'a pas eu que qui a eu des bienfaits de la colonisation. Il ne faut pas toujours en parler de façon négative. Il y a aussi eu du positif. Alors, on avait reproché au président Chirac cette déclaration qui était à contre-courant de la pensée ambiante et surtout que, bon, voilà, elle n'avait pas été bien expliquée par la suite parce que sortie du contexte. Là, Bernard Lugan essaye de remettre les choses en perspective pour dire ben, développement urbain en Algérie, mon œil. Alors, il fait une énumération catastrophique de la dilapidation du capital colonial passé en pure perte et profit par l'Algérie. Alors, pour lui, l'Algérie a été incapable de faire fructifier l'héritage colonial positif de la colonisation française. Alors, il dit ceci, en 1962, voilà, l'héritage de la mère généreuse France à sa chère Algérie était celui-ci. 54 000 kilomètres de route et de pistes, donc en fait 80 000 si on compte les pistes sahariennes, 31 routes nationales, donc 9 000 kilomètres étaient goudronnées, 4 300 kilomètres de voies ferrées, 4 ports équipés aux normes internationales, 23 ports aménagés, donc 10 accessibles aux grands cargos et 5 qui pouvaient être desservis par des grands paquebots, 34 phares maritimes, une douzaine d'aérodromes, des centaines d'ouvrages d'art, c'est-à-dire des ponts, des tunnels, des viaducs, des barrages, etc. Des milliers de bâtiments administratifs, des casernes, des bâtiments officiels, 31 centrales hydrauliques, hydroélectriques ou thermiques, des centaines d'industries importantes dans les secteurs de la construction, de la métallurgie, de la cimenterie, etc. Des milliers d'écoles, d'instituts de formation, de lycées, d'universités, avec 800 000 enfants scolarisés dans 17 000 classes, formation avec des instituteurs, bien sûr. Donc les deux tiers étaient français, ce qui était normal. C'est quand même la colonisation, l'essentiel étant que les enfants soient scolarisés. Un hôpital universitaire de 2 000 lits à Alger, à Oran et à Constantine, 14 hôpitaux spécialisés, 112 hôpitaux polyvalents, soit un lit pour 300 habitants, ce qui est quand même exceptionnel, sans parler du pétrole découvert et mis en exploitation par des ingénieurs français, ni même une agriculture florissante laissée en jachère après l'indépendance, à telle enseigne qu'aujourd'hui, l'Algérie doit même importer du concentré de tomates, des pois chiches et jusqu'à la semoule du couscous. Ce sont quand même des nourritures qui sont nourriture nationale. Si, on y mange au quotidien du couscous, de la semoule, des pois chiches, de la tomate. Alors, donc, l'Algérie n'existait pas comme pays avant la colonisation turque et tout de suite après, qui a été après laquelle colonisation turque a été relayée par la colonisation française. Donc, ça, c'est comme on dit, n'a rajouté plus, c'est suffisamment. Bon, c'est un portrait au vitriol hein, pour l'Algérie. Apparemment, tout cela a disparu. A disparu. Et dont l'Algérie peut venir se plaindre, d'après Bernard Lugan. Ça, c'est, il appelle ça les Oedipiens. Vous savez, ces gens qui tuent le père. Et pour lui, c'est catégorie d'Oedipiens, de parricides, enfin de ceux qui commettent des parricides, sont soit des félons, selon ses mots, soit des parasites. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, parasite, ça doit être sûrement un rapport avec l'immigration, des gens qui viennent et qui critiquent la France. Ce que je voulais dire en faisant ressortir cet exemple de l'Algérie, bien sûr, c'est toujours bien d'avoir ce débat-là, parce que le débat, voilà, c'est ce qui va nous éclairer, hein. On ne peut pas faire autrement. Mais ce qui ressort un peu, c'est qu'il y a deux façons de traiter l'Afrique. Il y a cette façon de voir l'Afrique comme, vous savez, c'est toujours celle-là qu'on montre, hein, voilà, qui souffre, qui n'arrive pas à faire fructifier son héritage et qui vient toujours commander comme ça à la porte de la France ou alors accuser la France de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle n'a pas fait. Mais moi, dans un livre que j'avais écrit qui s'appelle Hervé, qu'on trouve chez Amazon, hein, où ça faisait partie du programme. J'ai vu cette déliquescence ici hein, au Cameroun, où tout ce que le Cameroun a reçu d'héritage positif colonial n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, après, c'est vrai que, bon, c'est vrai, aujourd'hui, au Cameroun, on n'accuse plus tellement la France, bien qu'il y ait les multinationales qui font un peu écran. Mais il est vrai que pour nous qui avons grandi après les indépendances, on a trouvé des infrastructures très belles, comme des parcs, j'en parle. Vous regardez le livre, c'est chez Amazon, hein, Hervé. Ça faisait partie du programme parce que c'est un livre qui parle de l'éducation nationale. Ça parle de l'éducation nationale pour faire un peu le portrait de ce qu'est devenu l'urbanité. Voilà, c'est ça, la ville, entre-temps. Et il y a vraiment une dégradation en termes d'infrastructure. Mais vous verrez après parce qu'il y a une actualité brûlante là sur le Cameroun qui va mieux nous éclairer. Donc, il y a ce modèle algérien d'une part, et il y a le modèle tanzanien. Le président de la Tanzanie, le président John Magufuli, je ne sais pas si je vais bien prononcer, ou Magufuli ou Magufuli, je ne sais pas, mais vous connaissez tous son nom, il est décédé là cette semaine, la semaine dernière. Et c'est un drame parce que c'est justement le contre-exemple de l'Afrique qui souffre. C'est vraiment le président qui était en pointe, un peu comme Kadhafi. Et ça, ce genre de président, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et puis lui, c'était pas comme Kadhafi, flamboyant, qui pouvait s'attirer beaucoup de haine. Lui, il était quelqu'un dans son coin, enfin, dans son coin, dans son pays. Donc voilà quelqu'un qui a rejeté 10 milliards de dollars de prêts de la Chine. Vous savez, la Chine, elle a une politique ici. Parfois, elle donne de l'argent comme ça, mais c'est toujours. Vous savez, on dit l'aide liée, hein, genre de dons qui sont très, très conditionnés et très malsains. Donc, il a refusé. Il n'a pas fait de voyage à l'étranger d'État du tout, en dehors de l'Afrique. Il a réduit la taille de son cabinet de 30 à 19 personne. Il a interdit aux fonctionnaires du gouvernement de voyager à l'étranger et a aboli leur exonération fiscale. Alors ça, c'est exceptionnel. Et donc, il a taxé les compagnies minières qui faisaient de la contrebande. Il contrôlait parce qu'il interceptait les conteneurs dans les cargos et moyennant amende. Il a introduit l'école gratuite. La compagnie aérienne tanzanienne s'est agrandie de 6 avions, la flotte, voilà. Un peu comme l'Éthiopie, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un miracle de ce côté-là, des grands lacs qui est impressionnant, notamment pour la Tanzanie et l'Éthiopie. Alors, forcément, ça m'interroge, d'autant plus qu'il était contre le vaccin. Il a dit que pas de vaccin. Il croyait pas trop au Covid-19, ce qui ne pouvait que lui attirer des ennuis du côté de l'étranger. Donc, on peut là aussi On est mal à l'aise, hein, parce que quand on a de bons dirigeants en Afrique, ils partent très vite dans des conditions assez floues qui font qui laissent croire qu'ils ont été éliminés ou empoisonnés dans son cas. Et puis maintenant, vous savez, un chef d'État, quand vous disparaissez, ben c'est le Covid-19. Et puis ce Covid, il a des allures de sortilège, j'aime pas trop. On dirait qu'on le jette comme ça, comme un mauvais sort à certaines personnes, à certains chefs d'État. Donc c'est pas très clair tout ça là. Mais ce qui est clair, c'est que lorsqu'un président veut s'affranchir, africain, veut s'affranchir de l'idolâtrie de l'Occident, veut affranchir son peuple de la dépendance vers l'Occident, veut impulser comme ça une forme de, pas de souveraineté, mais de savoir-faire africain, et il a des problèmes, il finit par disparaître, c'est étonnant. Et sa disparition apporte un autre souci, c'est celui de cette alternance démocratique. Vous voyez, quand en Tanzanie, il y a la minorité musulmane, je crois qu'il y a même deux minorités, et la majorité chrétienne, quand ils font campagne, c'est vrai, ça fait bien, on a le chrétien qui est devant et la musulmane qui est, enfin, en l'occurrence, c'est madame la présidente qui était seconde, et la Constitution dit qu'en cas de disparition du président, c'est le vice-président qui prend le relais, un peu comme si Joe Biden disparaît, c'est Harris, madame Harris, qui prendrait le pouvoir, qu'on appelle déjà madame la présidente. Je ne sais pas si monsieur Joe Biden doit disparaître, je ne crois pas. Mais bon, il y a quand même un sentiment. Vous savez, il y a la politique qu'on fait spectacle. Ça fait bien la perception. C'est un peu comme le Cameroun qui a son problème aussi, où il y a toujours le président francophone et le premier ministre anglophone. Ça fait très bien. Mais dans la Constitution, c'est pas le premier ministre anglophone qui va remplacer. Non, parce qu'ils sont vraiment minoritaires et que ça se passe pas comme ça. Donc, du coup, là aussi, les Tanzaniens, à un moment donné, vont peut-être se sentir floués par cette transition. Mais ça, c'est une autre question. Pour terminer, on va terminer par ce que je vous disais par le Cameroun. La décentralisation, les horreurs de la décentralisation. La décentralisation, elle est implémentée, comme on dit en anglais, ici depuis le 9 février 2020. Il y a eu les élections municipales. C'est pas la première fois qu'il y a des élections municipales, mais celle-ci était vraiment placée sous le signe de la décentralisation, c'est-à-dire que maintenant, on a accusé l'État d'être trop loin, d'être trop gros, d'être trop lourd, de ne pas pouvoir satisfaire les besoins de la population. Donc, on veut que les élites locales prennent en main le destin des territoires. Très bien, quand une fois écrit comme ça, c'est très bien. Mais sauf que c'est difficile. Aujourd'hui, on apprend que ce matin, le maire de Pendja. Comment ça s'appelle? Pendant Djombé, j'atterris moi aussi, hein, les souvenirs reviennent. Monsieur Paul-Éric Kingé, c'est pas quand même, c'est quel personnage que moi j'ai appris à suivre ici. Donc ce maire est mort, décédé. Lui aussi, comme le président John Mangufuli, qui voulait vraiment impulser un développement sur son territoire, lequel territoire d'ailleurs est très riche. Très riche, c'est la zone de Pendjandjombé, c'est la zone qui a de l'EVA, c'est la zone. On en parlait d'ailleurs de l'EVA la dernière fois, vous vous souvenez, dans l'émission où je disais que le cours de l'EVA se négociait à Kuala Lumpur. Et pourquoi pas, il aurait pu aussi se négocier au Cameroun, dans cette zone-là de Pendjandjombé, qui a le poivre blanc. Comme produit phare, et l'EVA, qui a beaucoup de bananes, qui a des fleurs, des papayes, des champs, des hectares et des hectares. Et là, je vous parle des hectares et des hectares de l'ananas, du maïs. C'est un territoire très riche. Et là-dessus, il y a quelque chose qui s'appelle la pouzzolane. Moi, je viens de découvrir ça. Je ne connaissais pas ce que c'est qui participe à la construction. Il y a 8 hectares de pouzzolane et de pouzzolane. Et c'est un gravier un peu compliqué, un peu spécial, mais qui est très couru en ce moment. Et il y a une exploitation sauvage de ces gravi de ces comment on les appelle, ces carrières. Et lui, il est arrivé en tant que maire, donc en février 2020. Et il s'est étonné du fait que, mais c'est pas possible, les gens font un chiffre d'affaires, ils s'y renseignent, il les a convoqués. Pour ceux qui exploitent les mines, il les a convoqués, les carrières, 180 millions de chiffres d'affaires par mois. C'est le CFA, mais quand même. Et il verse 800 000 francs CFA par mois à la mairie. Lui, il a dit qu'il n'était pas d'accord parce que même si on enlève 100 millions de charges pour ces entrepreneurs, il reste quand même qu'ils ont 80 millions de bénéfices, de profits par mois et ils ne peuvent pas ramener à la mairie 800 000 francs. C'est une misère. Ça, il appelle ça le pillage communal et encore, c'est parce que lui, il est là, parce que ça ne se faisait pas. Alors, il a essayé de poursuivre, enfin d'être ferme. Il s'est rendu compte que ces gens-là, ils avaient des couvertures, une couverture. Il allait jusqu'à accuser le ministre de la décentralisation, hein, et le préfet du Mongo. Le Mongo, c'est dans le département qui couvre un peu qui couvre dans sa commune. Et il l'a fait sur le plateau d'une télévision qui s'appelle BNews. Une nouvelle télévision de monsieur, je ne sais pas si elle appartient, je ne sais pas qui elle appartient d'ailleurs, bon, il paraît qu'elle appartient à une autre autorité, on va pas dire son nom. Et en faisant cette révélation, enfin cette révélation, cette accusation claire, c'est même pas une accusation, c'est un fait. Parce que moi, j'ai vu ça, je vous ai parlé déjà dans mon village là-bas. Parce qu'il dit que le préfet couvre, le délégué gouvernemental couvre, la police couvre, la gendarmerie couvre, tout le monde couvre. Et lui, il ne peut pas accepter cela parce que lui, il doit gérer une commune qui plus est une commune pauvre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route bitumée. Toutes les routes sont défoncées, comme en Afrique, parce que c'est comme ça. Il n'y a pas d'électricité. Les maisons sont construites avec le matériau. Vous avez ce mélange de boue et de terre. Et puis, ça vous donne, on appelle ça ici calabote. Mais c'est. Bon, à Villefontaine, où j'étais, où j'habitais, où j'ai gardé quand même des racines profondes, dont je ne peux pas oublier, il y a un village, après un village, il y a une zone là-bas qui est protégée, des maisons en terre, qui pourtant sont très bien. Ici, ce n'est pas le même schéma, c'est un peu plus rudimentaire, on aurait besoin probablement d'une forme de coopération. Le Cameroun peut aller voir, et avec Villefontaine, pour cette coopération, des maisons en terre, ça peut être intéressant. Ici, donc, avec toutes ces choses qui manquent et pour lesquelles précisément le maire a été élu, comment peut-on couvrir? Il y a une guerre qui va s'ouvrir entre l'ordre administratif et l'ordre territorial. Un peu, je sais pas, en France, ça a eu lieu un temps, mais je crois qu'ils ont trouvé un terrain d'entente. Et il y a surtout dans la culture camerounaise l'idée les passe-droits. Les passe-droits, vous savez, un entrepreneur, il vient comme ça, il défie le maire parce qu'il a la couverture du préfet qui est peut-être son cousin, parce qu'il a le ministre qui ferme les yeux, on ne sait pas pourquoi. Parce que quand on dit corruption, il y a un organisme au Cameroun qui s'appelle la CONAC qui est chargé de vérifier toutes ces choses sur la corruption. De temps en temps, il fait un rapport, de temps en temps, on sanctionne. C'est très compliqué pour les maires. Et si ces maires-là, parce qu'avec toute cette richesse, voyez, et si ce maire-là était victime voyez, de quelque chose comme le président tanzanien ou une disparition comme ça, ben, il avait 55 ans, il était bien portant, il vient en plus de créer une télévision pour l'éducation. Qui s'appelait Television School TV Africa. Vous voyez, tout le genre de truc qui peut que lui apporter des problèmes à un dirigeant africain, parce que déjà c'est médiatique, vous savez, la télévision, ça c'est des trucs explosifs. D'ailleurs, après son passage chez BNews, ben, BNews, l'antenne, je ne sais plus comment, je sais pas ce qui leur fournit le satellite, là, ça a été déconnecté. BNews est passé au noir pendant un moment. Et on leur a dit que c'est une haute autorité qui avait demandé de débrancher tout ça. Bon, est-ce que c'était la guerre entre les ministres? Je ne sais pas. Toujours est-il que, voilà, cette Afrique-là, On ne va pas vous en parler, cette Afrique dynamique, vous n'allez pas entendre parler, parce que les dirigeants, très vite, on va, je sais pas, probablement les empoisonner, on va les éliminer, et nous allons revenir. Ah ben, celui qui viendra après va prendre peur, il n'osera pas trop, donc l'Afrique va rester pauvre, pas de route, la décentralisation mort-née, parce que si c'est si, déjà les administrateurs qui couvrent ce genre de bandits, franchement, c'est embêtant. Alors, je termine pour confirmer le travail et lui rendre hommage de M. Paul-Éric Kingué. C'est mon affaire de champ. Vous savez, je vous avais parlé de mon champ qui a été détruit allègrement. Tout le monde voit, les autorités, ça leur dit rien. Puis après, je vous ai parlé du bois. Le bois. Ces gens qui coupent le bois de façon clandestine. Mais il y a un précédent d'une femme qui coupait le bois comme ça. Et le maire qui était là avant, il bloquait cette cargaison-là. Il disait qu'il ne laisse pas passer parce qu'il faut qu'elle paye déjà ces cargaisons défoncent la route plus qu'il n'en faut, elle ne répare pas, paye pas de taxes. Mais il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il bloquait, ben, les ordres venaient d'en haut, la puissance venait d'en haut et faisait passer. Sa puissance venait des États parce que là, on a Boutmakak, c'est le même schéma, on pourrait juste transposer. Et que voulez-vous? Le maire actuel, il se trouve même que pour aller plus loin, cette dame aujourd'hui, elle est dans l'exécutif communal. Ben, qui va l'arrêter? Qui va l'arrêter? Personne ne peut l'arrêter. Et en plus, le parti, comme on dit, organisateur ici, c'est-à-dire que le parti au pouvoir. Donc, on va tuer tous les Africains qui vont essayer de faire quelque chose parce que l'Occident veut toujours avoir une Afrique pauvre et parce que il faut toujours que le reporting sur l'Afrique soit misérabiliste, que les Africains vivent dans la misère, dans la pauvreté, et alors que les dirigeants vivent dans l'opulence. Je veux dire, c'est un schéma qui est pensé comme cela. La télévision patouche, vous savez, en ce moment aux États-Unis, on est en plein débat sur les médias qui sont allés pleurer parce que ils veulent plus de pouvoir, ils veulent pas être soumis à la loi antitrust, il faut que leur domaine soit préservé. Mais leur domaine, en ce moment même, il y a un juge fédéral qui a reconnu qu'il y avait une façon qui était insupportable comment je vais dire, de départager les deux parties dans les commentaires médiatiques et qu'il fallait absolument rappeler les médias à l'ordre parce que là, cette façon-là de faire les choses, ça peut pas aller puisqu'à terme, c'est la démocratie qui est menacée. Mais ça, on le savait, mais que voulez-vous? C'est le nouvel ordre mondial. Et bon, on fait avec. On verra la décentralisation au Cameroun. Si ça va nous apporter de très bonnes nouvelles à la Kadhafi, ou pour vraiment honorer la mémoire de Paul-Éric Kingué, qui, en plus, je ne l'ai pas dit, a fait la prison ici pendant 9 mois avec l'opposant Maurice Kamto, parce qu'il était porte-parole de Maurice Kamto lors de la présidentielle de novembre 2018. Vous voyez, on est toujours autour des élections, de la démocratie, de la gouvernance, des rapports nord-sud, du pillage des territoires. On est toujours là-dedans. On ne s'en sort pas. Mais on ne s'en sort pas parce que c'est toujours l'Afrique face à l'Occident. L'Asie s'en est sortie de ce duel face à face, la terrible pillage, pas pillage, et au point que c'est maintenant l'Asie qui pille, mais le Cameroun ou l'Afrique, devant les puissances étrangères, le problème reste entier. Il date de 1884, avec la conférence de Berlin. Seules les formes changent, mais on est toujours confronté aux mêmes défis. Et alors, bon, on va pas pleurer non plus, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours accuser l'Occident, comme Bernard Lugan le dit, hein, nous avons dilapidé notre capital et notre héritage colonial aussi, parce qu'on ne partait pas de rien. Et nous avons aussi, comment je vais dire, on s'est asservi. Ça a servi, on s'est avili, en sorte qu'aujourd'hui, on a une forme de retour de bâton qui est assez extraordinaire. Au lieu d'avancer, on reconduit toujours les formes coloniales d'une façon ou d'une autre. Pourquoi est-on obligé de faire cela? Ça, c'est une autre question qui est probablement ésotérique. Et là, si on est dans l'ésotérisme, ça veut dire que l'Afrique n'a aucune chance. Mais je crois quand même qu'elle en a une et que, au fur et à mesure, les choses vont se décanter, mais Dieu, que ça va être long. Amis de Radio Silence, je n'ai pas parlé de paludisme, hein, ça va mieux, hein, ça va mieux. Et, et je vous dis à bientôt, c'était Élise Bock, Flash sur le monde pour Radio Silence.